Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. On est le 5 juin 2024 et pendant les trois prochaines semaines, chaque mercredi après-midi, ce sont des étudiants et des étudiantes de l'UTC qui sont à l'antenne dans le cadre de la matière WE01. Dans cette matière, on étudie le fonctionnement du web et plus généralement du numérique omniprésent autour de nous, dans nos poches, nos habitats, dans les espaces publics, dans les administrations françaises et maintenant avec le déploiement rapide de l'intelligence artificielle, cette explosion des outils numériques pose des questions éthiques, sociales, politiques, environnementales et tant d'autres. Pendant tout le semestre, les étudiants et étudiantes ont étudié plusieurs problématiques en rapport avec le numérique et à la radio, ils vous restituent une partie de ce travail. Je m'appelle Quentin et pour cette émission, je suis accompagné d'Eliott, Clément et Nathan. Bonjour à vous.
Bonjour.
Salut. Bonjour à toi.
À la précédente émission, vos collègues ont traité de la surveillance par les services de renseignement en France. Vous aussi, vous allez nous parler de surveillance, mais cette fois-ci, en ouvrant un peu le sujet, vous avez étudié comment le numérique a permis le déploiement de la surveillance sociale, à la fois sur le web, mais aussi dans l'espace public, partout dans le monde. C'est un sujet qui revient beaucoup cette année, car particulièrement d'actualité, rien qu'en France, hein, vous en parlerez, et l'irruption de l'IA a grandement contribué à renforcer ces pratiques, et vous nous expliquerez les points aveugles aussi de ces technologies. Nathan, je crois que c'est toi qui commences et tu vas nous montrer comment les évolutions techniques ont modifié le rapport des États et des entreprises à la surveillance.
Oui, nous allons vous présenter une émission sur la surveillance sociale. Cette surveillance a évolué ces dernières années grâce aux avancées technologiques. Aujourd'hui, elle ne se limite plus à la simple observation physique, mais elle englobe un vaste réseau de technologies interconnectées qui collectent, analysent et exploitent une multitude de données personnelles. Mais comment la surveillance numérique ainsi que la collecte et l'utilisation des données personnelles impactent-elles notre vie quotidienne et nos libertés ? Je vais commencer par vous présenter ce que le numérique et les nouvelles technologies ont permis de faire dans la surveillance sociale à travers plusieurs exemples. Je vais commencer par vous parler du système de crédit social en Chine qui a pris une grande ampleur sociale. Le principe de ce système est en réalité assez simple. Le système de crédit social est un programme qui a été créé par le gouvernement chinois qui a pour but d'évaluer les individus en surveillant leur comportement. Mais pourquoi faire, me diriez-vous ? Eh bien, ce parti politique chinois veut créer une société fiable et impartiale basée sur la confiance et l'honnêteté entre chaque habitant. Le principe est simple, le système récompense les personnes ayant un bon comportement en société et au contraire punit celles ayant commis des actions jugées comme malhonnêtes vis-à-vis des autres ou de la vie en société. Ces récompenses peuvent être des avantages au niveau administratif ou bien des réductions pour des services publics. Les punitions au contraire peuvent être par exemple des refus de crédit ou d'emploi. Mais comment savoir si une personne doit être récompensée ou punie ? Pour noter chaque habitant, ce système récolte des données dont certaines sont récoltées via des vidéosurveillances présentes dans les lieux publics. Ces vidéosurveillances sont d'ailleurs dotées d'une intelligence artificielle permettant la reconnaissance faciale. La captation et l'analyse des comportements en lieu public peut donc être une atteinte à la vie privée pour cette population. Pour illustrer cet exemple, j'ai envie de vous passer un extrait de l'épisode Black Mirror, et plus précisément le premier épisode de la saison 3 appelé Chute libre. Pour vous donner un peu de contexte, l'épisode se passe dans une société où chaque individu est noté par les autres de 1 à 5 étoiles en fonction de leur comportement avec les autres membres de la société. Leur moyenne leur donne accès à différents services. On suit ici Lacey, une jeune femme qui doit traverser le pays pour assister au mariage de son amie d'enfance. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter.
Bonsoir madame, comment allez-vous ?
Merveilleusement bien, merci.
Oh, je suis vraiment désolée, mais votre vol a été annulé.
Non.
Non, problème avec un voyageur au décollage.
Quoi ? Et à quelle heure est le prochain vol ?
Hélas, le souci c'est qu'ils sont déjà tous complets.
J'ai pris mon billet il y a des semaines, ma meilleure amie se marie.
Je suis vraiment désolée.
Je me dois d'être présente.
Oui, je comprends, laissez-moi regarder ce que je peux faire.
Merci. C'est adorable.
Oh, je vois qu'il reste une place sur un autre vol pour un départ ce soir. Elle est réservée à nos membres privilèges. Il vous faut un minimum de 4.2 pour en bénéficier.
Oh, ça tombe bien, c'est ma note.
J'ai bien peur que vous n'ayez que 4.18. Désolée.
Eh bien, ce n'est pas ma faute. C'est cette femme qui m'a mis une mauvaise note quand j'ai pris mon taxi.
Vous m'envoyez désolée, mais je ne peux pas faire autrement, voyez-vous.
Mais il ne me manque presque rien.
Je n'y peux rien, madame, c'est le règlement.
C'est pas la même
chose. Oh, mais madame, s'il vous plaît, surveillez votre langage.
Pardonnez-moi, le truc, c'est que... En tant que témoin de la mariée, je ne peux pas ne pas assister au mariage.
Et en tant que membre du personnel, je ne peux rien y faire.
Comme vous avez pu l'entendre, on lui a refusé un service premium car sa note n'était pas assez élevée. Cela montre bien comment notre comportement en société peut impacter notre vie dans cette société. Pour enchaîner avec d'autres petits exemples en lien, pour bien illustrer ce que le numérique a permis de faire dans la surveillance sociale, je vais vous parler de la crise de la Covid-19 en France. On a dû mettre en place l'état d'urgence sanitaire, ce qui a entraîné l'utilisation de nouveaux outils de surveillance. Par exemple, pour assurer la sécurité de la population, des drones ont été utilisés pendant le premier confinement. Ces drones surveillaient les rues pour vérifier si les gens respectaient bien le confinement et le couvre-feu. Ces drones étaient équipés de caméras haute définition permettant à la police de patrouiller et en analysant les images transmises. À Paris, ce dispositif a été possible parce que la préfecture a loué ces drones à une entreprise privée appelée Flying Eye. Voici un autre exemple. La vidéo-verbalisation a commencé à se développer grâce aux caméras de surveillance. Maintenant, ces caméras peuvent être contrôlées à distance. Ça veut dire que les agents de police sont derrière les écrans et surveillent les infractions au code de la route. Avec la haute définition des caméras, ils peuvent lire les plaques d'immatriculation facilement. Du coup, les agents de police peuvent verbaliser les automobilistes à distance. Pour donner un dernier exemple, je vais vous parler de la surveillance dans les lieux privés. De grandes chaînes de magasins utilisent aujourd'hui des logiciels de surveillance algorithmique afin de contrôler les comportements de leurs clients. En raison d'une augmentation du vol à l'étalage de 17%, des grandes chaînes telles que Biocoop, la Fnac ou encore Leclerc n'hésitent pas à utiliser les nouvelles technologies de surveillance pour réduire ces vols. Ces caméras, associées à une intelligence artificielle, permettent d'établir une probabilité de vol. Son programme informatique détecte d'une part la présence humaine, mais localise aussi les parties du corps telles que les bras, les jambes, la poitrine et la tête. Une seconde analyse algorithmique détecte ensuite la présence d'objets tels que les sacs à main, les sacs à dos, les caddies, les casques ou encore les poussettes, ainsi que le positionnement des rayons et des produits du magasin. Le logiciel peut ainsi détecter les mouvements et ainsi vérifier que l'article qui a été pris est bien déposé dans le caddie. Si cet article est rangé dans le sac à main, par exemple, une alerte est déclenchée permettant aux agents de sécurité d'intervenir rapidement. Enfin, pour vous parler d'un événement plus actuel, lors des Jeux Olympiques cet été à Paris, la vidéosurveillance algorithmique sera déployée pour analyser des comportements suspects. Ici aussi, il s'agit d'une atteinte aux libertés individuelles, comme le droit d'aller et venir par exemple. C'est tout pour cette partie. Je vous laisse maintenant avec Elliot qui va parler de la collecte de données et de leurs utilisations pour surveiller les tendances.
Bonjour à tous. Comme dit précédemment, je suis Elliot Touvet, étudiant à l'UTC en mécanique. Et nous allons aujourd'hui explorer le thème de la surveillance de masse, mais cette fois-ci à travers Internet. TikTok, Instagram et Facebook sont de véritables mines de données. Chaque interaction, chaque like, chaque partage révèle des informations cruciales sur les utilisateurs. Ces données peuvent ensuite être analysées pour dresser des profils détaillés, permettant de prédire et d'influencer les comportements. La collecte de données et leur utilisation pour influencer les tendances ont pris une ampleur considérable ces dernières années. Christopher Wiley, dans son livre Mindfuck, dévoile les rouages de Cambridge Analytica, une société de conseil politique britannique basée sur les données fondée en 2013 et fermée en 2018. Cette entreprise est connue pour son rôle dans l'utilisation des données de la population, notamment à travers les réseaux sociaux tels que Facebook. Pour illustrer un petit peu cette entreprise, l'élection de Trump en 2016 en est un exemple. Cambridge Analytica, en analysant en profondeur les données des utilisateurs de Facebook, a joué un rôle crucial dans la campagne présidentielle, en utilisant des profils détaillés des électeurs. Des messages hautement personnalisés ont été envoyés, influençant les décisions politiques de manière subtile mais significative. Le vote par référendum du Brexit est un autre exemple. La population avait été ciblée par Cambridge Analytica et la loi a été adoptée avec seulement 51,9% des voix. On peut donc imaginer que le 1,9% restant aurait été influencé par cette entreprise. Les algorithmes des réseaux sociaux contribuent également à renforcer les bulles de filtres. C'est un phénomène où les plateformes en ligne personnalisent les contenus affichés aux utilisateurs en fonction de leurs préférences et comportements passés. Cette personnalisation extrême de l'information peut conduire à un biais de confirmation, où seuls les contenus correspondant aux opinions préexistantes sont mis en avant, accentuant ainsi les divisions au sein de la société. Par exemple, un utilisateur pro-Brexit se verra recommander des posts en faveur du Brexit ou, plus subtilement, en défaveur de l'Union européenne. Je vais maintenant vous présenter un extrait audio présenté par Alain Juillet, président d'honneur de l'Académie de l'intelligence économique, traitant de Cambridge Analytica.
Cambridge Analytica. Alors, posons le contexte. Nous sommes en 2016. Il va y avoir un vote pour le Brexit en Angleterre et pour Trump aux États-Unis. Et vous avez une société qui s'appelle Cambridge Analytica qui s'est fait une spécialité dans la captation de données de personnes. Ils ont fait une sélection des personnes les plus instables. À partir de là, au sein de Cambridge Analytica, vous avez donc des personnes qui étaient pro-Brexit, pro-Trump. Et ils vont envoyer à ces personnes instables ce qu'on appelait des dark posts. Ils vont envoyer des messages qui cadrent parfaitement avec la psychologie de ces personnes et avec leur centre d'intérêt. Par exemple, à quelqu'un qui aimait la chasse, il était simple d'envoyer un message en disant « l'Europe va interdire la chasse ». À quelqu'un qui est contre la chasse, il était simple d'envoyer un message du style « l'Europe va renforcer les pouvoirs des chasseurs ». Les messages étaient totalement faux, ça n'avait aucune importance. L'important était de retourner l'opinion de ces personnes et de provoquer le vote qui était attendu, c'est-à-dire pro-Brexit et l'élection de Trump aux États-Unis.
Outre la surveillance des réseaux sociaux, la collecte de données et de métadonnées s'étend désormais à l'ensemble des sites web grâce à des technologies telles que les cookies et les pixels. Les cookies, vous les avez forcément vus sur Internet lorsque vous naviguez sur différents sites. Ces petits éléments techniques jouent un rôle central dans la collecte et l'analyse des données en ligne. Prenons l'exemple des cookies. Lorsqu'un utilisateur navigue sur différents sites web, les cookies suivent son activité en ligne, enregistrant ses préférences et ses habitudes de navigation. Ces données sont ensuite utilisées pour personnaliser l'expérience utilisateur. Mais elles sont aussi utilisées pour cibler des publicités spécifiques. Par exemple, si un utilisateur visite plusieurs sites de voyage, il peut être exposé à des publicités pour des offres de voyage. Ça vous est déjà arrivé, très probablement. Les métadonnées d'une action sur Internet, comme la position de l'utilisateur, le temps passé sur le site, sa vitesse de frappe au clavier, viennent renforcer les données primaires, permettant une analyse comportementale plus fine. Il est par exemple possible, à l'aide d'une IA entraînée, de déterminer si quelqu'un est énervé et comment il perçoit un contenu selon sa vitesse d'écriture de son commentaire. Il existe des possibilités encore plus intrusives. Un article de Bloomberg, intitulé « Amazon workers are listening to what you tell Alexa », explique comment des employés écoutent et analysent ce que les utilisateurs disent à Amazon Alexa. C'est un haut-parleur intelligent équipé d'un assistant vocal intégré, permettant aux utilisateurs d'interagir avec des services en ligne et de contrôler des appareils domestiques, au même titre que le Google Home par exemple. Pour conclure, les GAFAM et toutes les entreprises ayant accès à ces données peuvent ainsi surveiller en temps réel les tendances de la population à l'échelle mondiale, non seulement pour influencer les habitudes de consommation, principe de la société capitaliste, mais aussi pour façonner les opinions politiques. Je vous laisse maintenant avec Clément.
Merci beaucoup. Elliot, donc toi, tu nous as parlé, on a vu là plusieurs exemples de comment la surveillance était utilisée, donc le Crédit Social, Cambridge Analytica, les réseaux sociaux. Toi, Clément, tu vas nous parler plus généralement de qu'est-ce que ça a permis et en fait de sur quoi on peut peut-être s'interroger, en tout cas les points d'attention par rapport à ces nouvelles techniques de surveillance.
C'est totalement ça. Du coup, dans cette dernière partie, je vais vous parler des conséquences de la surveillance sur nos vies et des perspectives futures. Mon intervention s'effectuera principalement sur la discrimination, donc une des conséquences. Cependant, si vous êtes intéressé, vous pourrez retrouver l'entièreté de l'article sur notre site de l'UTC. Tout d'abord, revenons en 2013, lorsque Edward Snowden a divulgué des milliers de documents classifiés révélant des programmes de surveillance mondiale orchestrés par la NSA. Cette divulgation des méthodes de surveillance a sensibilisé le public quant aux pratiques de surveillance étatique et à l'importance de la protection des données personnelles. Elle a aussi entraîné des réactions législatives et technologiques. Nous pouvons notamment penser au RGPD en 2018 qui a lui renforcé les droits des individus sur leurs données personnelles et a aussi imposé des obligations strictes. On entend souvent parler de la surveillance sous des termes variés comme le capitalisme de surveillance où les données personnelles sont récoltées à des fins lucratives, la surveillance en tant que moyen de protection contre les menaces ou encore la surveillance en tant que collecte de données pour diverses utilisations. Mais ce n'est pas tout. Ce sujet est riche et controversé, impliquant donc des questions éthiques et sociétales profondes. En effet, un aspect souvent négligé de la surveillance et de l'utilisation des données personnelles est la discrimination qui peut en découler. Le capitalisme de surveillance, où les données sont collectées et monétisées, pose des problèmes éthiques majeurs. Les algorithmes, s'ils sont biaisés, peuvent perpétuer des discriminations. Un exemple frappant est celui présenté par Aurélie Jean dans son TEDx, intitulé « Les algorithmes font-ils de nous des imbéciles ?». Elle explique comment les biais algorithmiques peuvent mener à des discriminations. Lors de cet extrait, elle éclaircit donc la définition d'un algorithme et pose enfin une question d'ouverture sur son usage.
Et puis, le mot algorithme, en fait, vient du 9e siècle de notre ère, du nom latinisé algorithmi, du mathématicien perse Al-Khwarizmi, dont vient aussi le mot algèbre. Donc l'algorithmique, c'est vraiment une science qui est très, très ancienne. C'est la science de la logique, du raisonnement logique, de la résolution de problèmes. Et aujourd'hui, encore une fois, voilà, quand on parle d'algorithme, on parle d'algorithme numérique. Et petit détail quand même, c'est que moi, quand je parle d'algorithme, en fait, les gens pensent souvent à l'algorithme des réseaux sociaux. En fait, les gens ne réalisent pas que c'est une petite partie des algorithmes qui tournent dans le monde entier. Et surtout, lorsqu'on parle d'algorithmes sur les réseaux sociaux, les gens pensent tout de suite les algorithmes toxiques, ceux qui fonctionnent pas bien ou ceux qui sont mal conçus. Et en fait, il n'y a pas que ça non plus sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment, en fait, c'est sortir de cette vision déformée pour pouvoir bien expliquer ce que sont les choses et comment elles fonctionnent. Et comme tu l'as très bien dit, comment on doit réguler non pas les algorithmes, mais la manière dont on va concevoir, penser, développer, tester et utiliser ces algorithmes.
En utilisant cet extrait, je cherche à montrer deux choses. Premièrement, que par sa définition, l'algorithme est une chose souvent incomprise. Et deuxièmement, qu'il est de notre devoir de nous remettre en question sur notre usage et surtout sur la conception des algorithmes. Pour clarifier les choses, la surveillance moderne repose sur la collection massive de données, lesquelles doivent être traitées efficacement pour devenir la base de la surveillance la plus fiable. Aujourd'hui, il y a une multitude de dispositifs et d'aspects à surveiller, ce qui nous pousse notamment à utiliser des intelligences artificielles pour gérer ce traitement de données. Le machine learning, ce qu'on appelle souvent algorithme, est une branche de l'IA qui est souvent employée pour ces tâches. Par exemple, les algorithmes peuvent être entraînés pour prévoir les crimes en analysant des données historiques et des tendances comportementales. Cependant, ces algorithmes peuvent également renforcer les inégalités existantes. Un cas concret est celui des systèmes de reconnaissance faciale, souvent moins précis pour des personnes de couleur, ce qui va conduire notamment à des erreurs d'identification et à des arrestations injustifiées. De même, des algorithmes utilisés pour décider de l'approbation des prêts peuvent refuser des crédits à certains groupes ethniques à cause de biais présents dans les données d'entraînement. Un autre exemple est l'algorithme de recrutement qui est utilisé par certaines entreprises technologiques. Il a été découvert que certains de ces systèmes favorisaient inconsciemment les candidats masculins car les données historiques montraient qu'il y avait une prévalence de candidats masculins dans les postes précédemment occupés. Cela a conduit alors à une discrimination systématique contre les candidates féminines. Ces exemples montrent clairement que les algorithmes, bien que puissants, doivent être conçus et utilisés avec une grande précaution. Il est crucial de développer des méthodes pour identifier et corriger les biais dans ces systèmes afin d'assurer une utilisation équitable et transparente. La vigilance et la régulation sont essentielles pour éviter que les technologies de surveillance ne perpétuent ces discriminations. De nos jours, nous faisons face à des défis éthiques majeurs, surtout posés par l'exploitation des données personnelles et la véritable nécessité de protection. La surveillance, qu'elle soit étatique ou commerciale, pose des questions cruciales sur notre avenir numérique, mais aussi sur l'équilibre entre la sécurité et la liberté. Enfin, sur la sécurité de garantir une utilisation équitable et transparente des technologies. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à nous poser des questions si besoin, ou même pour des points à clarifier.
Merci beaucoup Nathan, Clément et Elliot pour votre présentation. Bah oui, il y a plein de questions, donc on va en choisir quelques-unes. Il y a Emmanuel qui demande, est-ce qu'on peut un jour imaginer un système d'évaluation sociale similaire à celui mis en place en Chine, en Europe ? Et du coup, je dirais pour continuer la question, est-ce que toi, Nathan, ou les autres, tu as connaissance de trucs en France ou en Europe qui pourraient se rapprocher un peu du crédit social sans être aussi total, quoi?
Alors, je pense que ça serait un peu compliqué d'élargir ce système à d'autres pays, enfin, à voir avec le gouvernement. Mais en tout cas, nous, en France, on a la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne son avis à chaque fois sur ces genres de j'ai perdu mon mot, mais de systèmes à mettre dans notre société. Donc, par exemple, des caméras qui nous analysent ou encore des micros qui nous enregistrent. Elle donne toujours son avis et elle est toujours réticente vis-à-vis de ces projets. Et donc, ça ralentit, en fait, ces projets. Après, pour la deuxième partie de la question, je n'ai pas connaissance de systèmes qui sont aussi extrêmes que le système de crédit social en Chine. Après, je sais, aux États-Unis, il me semble qu'il y a quand même une surveillance vis-à-vis des transactions réalisées. À vérifier, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette idée. Il me semble, c'est à vérifier.
Alors oui, t'as raison, il y a la CNIL qui effectivement a mis le holà, notamment sur les expériences de reconnaissance faciale dans certains lycées. Après, c'est vrai qu'elle n'est pas toujours là. Par exemple, elle a donné son aval pour la vidéosurveillance algorithmique pendant les Jeux Olympiques ou quoi. Donc bon, ça dépend des moments. Et juste peut-être pour compléter... Alors évidemment, c'est pas du tout comme le crédit social, mais de plus en plus d'administrations françaises ont recours à des algorithmes pour mettre des scores de suspicion aux bénéficiaires, par exemple, des caisses d'allocation familiale ou de la sécurité sociale pour détecter les fraudes. En tout cas, c'est ce qui est présenté. Et du coup, bah, pareil, on peut se poser les mêmes questions que celles que tu poses sur discrimination, biais, etc. Ok, bah, merci beaucoup. Alors... plein de questions autour des algorithmes. Toi, tu as parlé des discriminations, Elliot. Alors, on va peut-être prendre juste une question sur Cambridge Analytica d'abord. Toi, tu disais qu'au niveau du Brexit, Elliot, ça avait sûrement joué. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des évaluations un peu précises qui nous disent quel est le poids de Cambridge Analytica? Est-ce qu'on a des certitudes sur le fait que ça ait réellement eu un poids, puisque c'était le produit qu'elle vendait, de l'influence, mais ça marchait vraiment?
Alors, c'est assez compliqué de quantifier l'influence que des informations sur des réseaux sociaux ont sur les utilisateurs, étant donné qu'on n'est pas dans leur tête, ni dans la tête de tout le monde. Mais comme on a pu le voir, le Brexit a été voté par référendum à 51,9%, en sachant que les informations, des fausses informations, pour une grande partie, avait été diffusé au Royaume-Uni. Nous pouvons facilement imaginer que sur un large spectre de personnes visées, on ait gagné un faible pourcentage. Mais étant donné que la loi est passée de très près, l'influence de Cambridge Analytica peut être avérée. Dans son livre Mindfuck, Christopher Wiley, donc, qui travaillait en tant que data analyst chez Cambridge Analytica, expliquait qu'il allait dans des petits villages reculés au fin fond du Royaume-Uni pour aller parler avec ses habitants, pour comprendre les biais qu'ils avaient, pour comprendre leur point de vue, puis pour entraîner petit à petit une intelligence artificielle, un algorithme qui, à partir des données de ces personnes qui utilisaient Facebook, parce que tout le monde utilise Facebook, ou du moins pour une certaine tranche d'âge, et donc petit à petit, effectivement, ces algorithmes devenaient efficaces. Pour la campagne de Trump, ça a été plus développé, mais je n'ai pas d'article, moi, de mon côté. Mais l'influence a été réelle, et on peut évidemment se douter que des biais de confirmation sont assez puissants quand il s'agit d'idées politiques fortes qui nous touchent personnellement.
Merci beaucoup. Alors, au niveau des biais, je pense qu'il y a plusieurs questions qui peuvent se regrouper en une. Il y a Nicolas notamment qui demande si il est possible de garantir l'impartialité et la transparence des algorithmes autorisés. Il y a Théo, je crois, qui demande comment assurer la transparence et le contrôle d'un tel système afin d'éviter les dérives autoritaires, par exemple pour le crédit social. Et J'ai vu une autre question. Armel, c'est des questions qui se regroupent, qui demande qui définit les critères de bon comportement ou comportement suspect. Donc c'est un peu la question de est-ce qu'on peut faire un truc vraiment transparent et si oui, qui décide, et est-ce qu'on peut faire un truc vraiment neutre en quelque sorte vis-à-vis de ces objectifs-là. Je ne sais pas qui veut esquisser un bout de réponse.
Alors moi, je sais que certains codes de certaines intelligences artificielles sont assez complexes à décrypter, même pour des experts. Donc, décrypter un code, on ne peut pas savoir s'il y a des biais de discrimination ou quoi dans ces codes, mais on ne peut pas savoir exactement ces codes. Et qui peut dire ce qui est bien et ce qui est mal? Là, on parle du gouvernement chinois, mais c'est vrai que c'est assez subjectif, en fait, comme idée, parce que chacun a son idée du bien et du mal, et ça pose problème, en fait.
On pourrait, par exemple, imaginer une sorte de vote en fonction des critères moraux de chacun, mais à l'échelle d'un pays, ça serait tout simplement irréalisable. On voit, ne serait-ce que pour une loi plus ou moins étayée, plus ou moins définie, ça prend des semaines de débat dans les assemblées, etc. Imaginez pour plein de critères de bien ou de mal sur les actions d'un individu. Moi, ça me paraît compliqué.
Oui, et surtout qu'il peut toujours y avoir le biais d'influence. On ne va pas forcément prendre tout en compte et sur le moment, on peut peut-être oublier des points essentiels qui, par la suite, vont recréer des biais de discrimination. Et même si c'est sur une minorité, il y en aura toujours et ça peut se développer.
Merci pour vos réponses. J'ai lu des études qui montraient que quand la décision sortait d'un algorithme, il y avait un biais déjà de se dire que comme c'était une machine qui avait produit cette décision, alors c'était forcément plus neutre que si c'était un humain. Et donc on faisait plus confiance aux décisions d'une machine que si elles étaient faites par un humain. Mais du coup, moi, la question aussi que pose Gurvan, c'est de savoir d'où vient en fait le biais algorithmique. Comment ça se fait qu'il y a un biais dans les algorithmes existants? Et du coup, peut-être que si on sait d'où il y a un biais, on aura des idées de comment et si on peut le combattre.
Un algorithme va s'entraîner à partir de bases de données qui elles-mêmes sont issues de comportements humains. Donc selon la provenance de votre base de données, les biais vont être différents. Si vous prenez la base de données d'un groupe d'humains racistes, par exemple, il est fort probable que votre algorithme le soit aussi. Donc la manière de supprimer ces biais, ça serait de prendre la majorité de la population comme base de données, mais là, ça devient de plus en plus compliqué. Et ça devient de plus en plus lourd au niveau technologique, niveau coût environnemental et énergétique. Après, voilà, le biais vient vraiment des bases de données par lesquelles l'algorithme est entraîné.
Merci beaucoup. Donc là, vous avez montré qu'il y a moyen toujours d'affiner les jeux de données sur lesquels les algorithmes sont entraînés. Il y aurait aussi éventuellement moyen de décider collectivement quels sont les comportements qu'on veut ou qu'on ne veut pas en tant que société. Maintenant, ça rejoint la question que Vivien se posait, c'est de savoir est-ce que l'utilisation de ces intelligences artificielles, c'est une question un peu piège, elle est efficace, parce qu'il faudrait encore définir efficace. Et je pense que ce qu'il y a un peu derrière cette question, c'est est-ce que vis-à-vis de tout ce que ça demande en termes d'infrastructures, de coûts, de développement et puis d'évitement des biais, est-ce que ça vaut le coup par rapport à ce que, par exemple, on avait auparavant ou ce qu'on a avec d'autres méthodes pour limiter la criminalité ou que sais-je. Est-ce que vous avez des billes là-dessus?
En fait, le problème des intelligences artificielles liées aux vidéosurveillances, c'est qu'ils vont tout de suite aller au plus rapide. Ils ne vont pas chercher en fond quel est notre ce qu'on veut faire. Par exemple, je reprends l'exemple de la vidéosurveillance dans les lieux privés avec les supermarchés. Imaginons qu'on n'a pas de caddie et qu'on n'a qu'un sac et qu'on n'a pas assez de bras pour tout porter, on est forcément obligé de mettre un article dans un sac à main alors qu'on va peut-être le payer à la caisse. Enfin, c'est un cas très précis, mais l'algorithme ne va pas se dire hop, ok, il n'a pas de caddie, il va mettre l'article dans son sac. Et il va tout de suite dire ok, il est en train de voler. Donc je pense que c'est l'un des plus gros problèmes dans cet exemple. Il ne va pas chercher à approfondir notre vouloir, ce qu'on veut faire, quoi.
Après, je suis pas totalement d'accord pour le coup. Bon, ça peut être peut-être un peu brutal, mais moi, je dirais qu'il a une certaine impartialité. Justement, le fait que ce soit bah, une mamie ou un jeune homme qui mette dans son sac à main, il va directement bah, pas prendre le billet de « c'est une mamie, donc bah, peut-être qu'elle le met dans son sac à main ». Et donc, il réduit ce billet-là. Et aussi, bah, de nos jours, il y a vraiment beaucoup d'endroits à surveiller et les données qu'un humain devrait... prendre sont vraiment nombreuses, et donc le fait de passer par une machine learning ou une intelligence artificielle, ça permet de réduire le travail d'un humain et d'y arriver au mieux, entre guillemets.
Pour rebondir sur ton exemple, un algorithme qui va être entraîné sur des données empiriques, donc sur qui vole, sur comment quelqu'un vole, je pense qu'il différenciera la grand-mère du jeune qui arrive avec une capuche et un pistolet dans son sac. Parce que lui, il sera plus susceptible de voler, théoriquement. Et enfin, la question, pour répondre de manière globale, ça va dépendre de ce que chacun veut pour sa vie, au final. Parce que est-ce qu'on veut d'un monde aseptisé, entre guillemets, bon là, c'est mon avis personnel, mais d'un monde aseptisé où tout est surveillé, il n'est rien possible de faire en dehors des règles, ou bien d'un monde plus humain, à mon sens, avec des aléas, avec des hauts et des bas, avec des moments de danger où on ne se sent pas en sécurité, parce qu'effectivement, c'est inéluctable, et d'autres moments où, au contraire, on est content parce qu'on s'est sorti du danger. Là, c'est la question. Tout dépend de la volonté qu'on a, si on veut juste vivre ou survivre. Voilà.
Bon, c'est très tranché comme avis, mais en tout cas, c'est intéressant. Ça, en tout cas, ça montre qu'il y a des débats, y compris dans WE1, mais en fait, c'est aussi des débats dans la société en général, de, en gros, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, et est-ce que ça vaut le coup, qu'est-ce que ça implique d'avoir des systèmes de surveillance. Et ça, en fait, c'est des questions vertigineuses. Par exemple, beaucoup de gens disent que l'automatisation va libérer du temps de travail, mais du coup, où est-ce que ce temps de travail il est réinvesti? Ça aussi, ça dépend de notre modèle de société, ça sera pas la même réponse dans un pays ou dans un autre, dans un modèle économique ou un autre. Donc tout ça, c'est vraiment des questions vertigineuses, mais je trouve ça intéressant d'y réfléchir et de se poser la question un peu de qu'est-ce qu'on aimerait voir, en fait, nous, à titre individuel dans le monde, et qu'est-ce que la surveillance va... provoquer par rapport dans les futures années, par rapport à nos sociétés, parce que les technologies ont toujours sont pas neutres, quoi, impliquent toujours des choses. Une question sur le RGPD. Je sais si quelqu'un sait. Donc Julien demande, est-ce que la surveillance par caméra pour les Jeux Olympiques, est-ce que cette collecte de données, elle rentre ou pas en conflit avec le RGPD, en gros? Est-ce que le RGPD, il s'applique aussi à la surveillance de l'État? Donc, pour rappel, un règlement général sur la protection des données qui définit comment, dans l'Union européenne, on a le droit de collecter, de traiter des données personnelles.
C'est une bonne question.
Si vous savez pas, c'est pas grave. Vous savez pas?
Non.
Alors, moi, je peux vous dire, j'ai regardé un petit peu avant, que le RGPD, on voit ça dans son article 2, ne s'applique pas pour le traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquête et de poursuite en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris pour la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de cette menace. Donc en gros, le RGPD, c'est plus pour les entreprises, genre Facebook ou compagnie, tout ce qui est raison d'État, on va dire, en tout cas loi pour la prévention de délits, ça ne s'applique pas. Gabriel demandait est-ce qu'on peut imaginer des réseaux sociaux tels que YouTube ou TikTok fonctionner sans algorithme de recommandation, dans la mesure où chaque individu a des préférences qui lui sont propres. Après, les algorithmes de recommandation, ils sont justement censés comprendre ses préférences, mais ça aussi, ça se discute. Mais en gros, est-ce que c'est possible d'imaginer des réseaux sociaux sans algorithme de recommandation, et qu'est-ce que ça impliquerait, en fait? Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière l'algorithme de recommandation?
Pour les imaginer, il n'y a pas besoin de chercher très loin, il suffit de voir quelques années en arrière. Au tout début d'Internet, les réseaux sociaux, ou au moins les plateformes de vidéos comme YouTube, n'avaient pas spécialement d'algorithme, et c'était chaque utilisateur qui cherchait la vidéo dont il avait entendu parler par telle et telle personne, puis qui la regardait. Après, au fur et à mesure, les algorithmes de recommandation se sont développés, et il me semble qu'aujourd'hui, plus de 70% des contenus regardés sur YouTube sont choisis grâce à l'algorithme de recommandation. Donc c'est devenu quelque chose qui est très puissant. Et le taux d'engagement des utilisateurs, c'est-à-dire le temps qu'ils vont passer sur la plateforme, a explosé, notamment grâce à ces algorithmes. On voit bien que quand on est en train de regarder des réels sur TikTok ou des shorts sur YouTube, peu importe, on a envie de rester parce que chaque vidéo poursuit notre cours de pensée et donc on reste sur la plateforme pendant des heures. Maintenant, pour le réseau social en tant que tel, ça pourrait fonctionner, mais c'est juste qu'on y passerait moins de temps et que le réseau en lui-même serait moins rentable pour ses patrons.
Et donc en fait, sans algorithme de recommandation, ça change complètement le modèle économique qu'il y a sur les plateformes. C'est peut-être même plus possible d'avoir un modèle économique aussi rentable que ceux de Facebook ou compagnie, parce qu'en fait, dans les algorithmes de recommandation, il y a la pub qui arrive, il y a les publicités ciblées, etc.
Voilà, donc aujourd'hui, on peut imaginer que c'est pas possible, vu la direction qu'a pris les réseaux sociaux.
Voilà, on peut citer Mastodon, qui est une alternative à Twitter, qui est utilisée par plus de 10 millions de personnes aujourd'hui, sur lesquelles il y a des gens qui se réfugient, donc ça fonctionne de manière décentralisée, il n'y a pas de patron de Mastodon, et c'est sans pub, sans algorithme de recommandation, un logiciel libre, etc. Donc voilà, il y a des alternatives qui commencent à doucement émerger, il y a Peertube, qui est une alternative à YouTube sur le même modèle, mais voilà, ça, c'est pas les mêmes manières de produire et de consommer des vidéos. J'ai oublié ma question, c'est pas grave. ce que je voulais dire, c'est que, Elliot, c'est intéressant ce que tu dis sur les 70% là de vidéos qui sont recommandées par l'algorithme sur YouTube. C'est que finalement, on a beaucoup parlé de Cambridge Analytica et de l'influence politique que ça a pu avoir, mais en fait, on a peut-être du mal à savoir quelle est l'influence politique qu'a YouTube directement, même si c'est pas une volonté de faire pousser tel ou tel truc, mais de fait, si 70% des milliards de vidéos regardées par mois sont recommandées par l'algorithme, ça a sans doute un impact, mais est-ce qu'aujourd'hui on sait le quantifier ? Est-ce qu'on a... Vous avez des idées la tendance ?
Je ne vais pas avoir de statistiques, de données là-dessus, mais ça paraît évident. Plus on va regarder des vidéos traitant d'un tel thème, admettons qu'on regarde des vidéos d'extrême droite, on va forcément avoir des recommandations de vidéos similaires. Donc ça va nous influencer, toujours par ce même biais de confirmation de pensée. Donc oui, l'impact est probablement notable.
Parce que du coup, là, ce que tu disais, c'est que si on regarde des vidéos d'un thème en particulier, l'algorithme, lui, va continuer à nous suggérer des trucs là-dessus qu'on n'aurait pas forcément, c'est ça.
Je pense que c'est une boucle, en fait. Ouais. Ça va à chaque fois s'intensifier jusqu'à ce que... Enfin, c'est sans fin, en fait. C'est une boucle.
Est-ce que vous aviez remarqué, pendant l'épisode Covid, par exemple, ce que YouTube avait fait sous les vidéos ? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des bandeaux pour dire « ça, c'est une source fiable, ça vient de tel, de l'OMS, par exemple. » Et du coup, ça avait tendance à renvoyer même sur des vidéos qui étaient identifiées comme des sources fiables. Donc là, YouTube avait pris position en quelque sorte en disant « bah voilà, ces organisations-là, elles fournissent des vraies informations » et avait essayé de lutter un peu contre les fake news comme ça. Donc ça aussi, je pense que ça pose question sur comment est-ce qu'une société privée telle que YouTube fait son arbitrage et comme enfin le pouvoir énorme qu'elle a pour orienter les gens ou non quoi. Bon, et ben je pense qu'on va s'arrêter là. On a traité à peu près tous les sujets des questions. Merci beaucoup Nathan, Clément, Elliot pour cette présentation. Et puis bon après-midi à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutaient.
Merci.
À la prochaine.
Bon après-midi. Ciao. Bon après-midi.